Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'Église aujourd'hui nous fait célébrer donc ce 15e dimanche après la Pentecôte. Il y a bien des choses à dire à partir de l'Épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, qui reprend un peu le thème du dimanche précédent, donc le 14e dimanche après la Pentecôte. Donc Dieu expliquait bien qu'il y avait un choix à faire entre les œuvres de la chair qui mènent en enfer et les œuvres de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit qui mènent au ciel, et qu'on ne pouvait pas servir de maître à la fois, où il fallait haïr le premier et adorer le second, ou adorer le premier et aimer et haïr le second. Et nous retrouvons un petit peu la même idée ici. Saint Paul nous donne quelques conseils. Je ne vais pas y revenir parce que j'ai déjà expliqué tout ça dimanche dernier, que la grâce de Dieu, ne vous y trompez point, ne se moque pas de Dieu, nous dit Saint Paul. Celui qui sème dans la chair, dans sa chair, de la chair moissonnera la corruption. Celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit moissonnera la vie éternelle. Comme nous avons déjà vu ce thème-là, je voudrais plus m'approfondir sur l'évangile du jour. L'évangile de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Donc Jésus se rend dans une ville appelée Naïm et ses disciples allaient avec lui. Ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait un mort en terre. Et c'était un fils unique et sa mère était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, à sa vue, fut touché de compassion pour elle et lui dit « Ne pleurez pas ». Puis il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je vous l'ordonne, levez-vous. » Et le mort se mit sur son sein et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère et tout le monde fut saisi de crainte et glorifiait Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Donc je voudrais utiliser cet évangile donc de Saint-Luc au chapitre 7 pour vous expliquer comment les pères de l'Église, encore une fois ce sont eux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte et nous devons nous garder en tant que catholiques d'une interprétation personnelle des Saintes Écritures. Il faut nous soumettre à l'interprétation de l'Église, donc à l'interprétation des pères, et c'est en étudiant l'interprétation des pères qu'on obtient l'esprit de l'Église concernant l'interprétation de la Sainte Écriture. C'est très important. Voilà donc ce que disent les pères. Je vais essayer de vous résumer ceci pendant ce sermon. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque notre Seigneur s'adresse à cette veuve éplorée, lui dit « Ne pleurez pas ». Cela marque justement notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu des consolations, celui qui console les affligés, il nous apprend à nous consoler de la perte de ceux qui nous sont chers par la vertu d'espérance de la résurrection. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, que la Sainte Écriture plutôt, rapporte 7 résurrections, avant même celle de notre Seigneur Jésus-Christ. 7 cas avant la résurrection du jour de Pâques. Le premier cas, c'est le fils de la veuve de Sarepta, le troisième livre des Rois, chapitre 17. Deuxième cas, le fils de la Tsunamite, au quatrième livre des Rois, chapitre 4. Puis, troisième cas, celle qu'opéra le corps d'Élisée, au quatrième livre des Rois, chapitre 3. Puis, le fils de la veuve de Naïm, l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc, chapitre 7. La fille, du chef de la synagogue, Saint Marc, chapitre 5. Également, la résurrection de Saint Lazare, Saint Jean, chapitre 11. Enfin, dernier cas de résurrection avant la résurrection de notre Seigneur, celle qui eut lieu au temps de la passion du Sauveur après sa mort, alors que les corps d'un grand nombre de saints ressuscitèrent. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que beaucoup de gens ont vu de leurs yeux, du temps de notre Seigneur, donc des gens qui étaient morts depuis assez longtemps, qui vont ressusciter après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, entre le Vendredi Saint et le jour de Pâques. La dernière résurrection, évidemment, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est vainqueur à jamais de la mort, qui vit pour ne plus mourir, pour signifier que la résurrection générale, qui aura lieu à la fin du monde, ne sera plus sujette à la mort, mais sera suivie d'une vie éternelle. Alors voyons un petit peu l'interprétation de l'Église de ce texte de Saint Luc au chapitre 7, donc la résurrection du fils de la veuve de Naïm. D'abord, une interprétation allégorique. Ça veut dire quoi, l'interprétation allégorique? Ça veut dire que l'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Donc, voilà ce que disent les pères sur ce sujet. La veuve qui pleure représente l'Église. L'Église qui est déjà annoncée dans l'Ancien Testament et qui existe déjà d'une façon imparfaite, j'allais dire, qui va se perfectionner avec l'arrivée de notre Seigneur. La veuve est l'Église qui pleure ses enfants, comme Sainte Monique qui pleure le péché de Saint Augustin avant sa conversion. Cette Église qui pleure tous ceux qui sont tombés dans le péché mortel et qui ont perdu la grâce du bon Dieu. Et par ses pleurs, donc, elle veut les ramener à la vie spirituelle, à la vie de l'âme. Donc, le Christ, on voit très bien dans l'évangile de ce jour, voilà comment expliquent les pères, le Christ, en réponse à ses prières, d'abord, oblige les porteurs à s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contrôle ces passions mauvaises qui dominaient le jeune homme et brisent leur pouvoir. Deuxième chose, après avoir obligé les porteurs à s'arrêter, notre Seigneur Jésus-Christ va toucher le cercueil. Ça veut dire, disent les pères, qu'il touche le bois de la croix. Et ainsi, il ramène le jeune homme à la vie. Troisième étape. Première étape, il oblige les porteurs à s'arrêter. Deuxième étape, Dieu touche le cercueil. Troisième étape, le jeune homme s'assied, commence à parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence une vie nouvelle. Il rend grâce à Dieu. Et tous ceux qui en sont les témoins sont remplis d'admiration et rendent eux aussi grâce à Dieu. Donc les pères donnent des détails. La veuve donc représente l'Église, le fils, le peuple des gentils, enfermé dans le cercueil de la concupiscence, est transporté en enfer comme dans un tombeau. Élie et Élisée, les prophètes de l'Ancien Testament, ressuscitaient les morts en priant Dieu, mais Dieu le fait en commandant. Passons au sens anthropologique maintenant, c'est-à-dire au sens moral. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un passage de l'Ancien Testament nous explique ce que nous devons faire, nous. Voilà comment les pères de l'Église expliquent la chose. Ils disent que ce passage nous explique comment un prêtre doit se comporter avec un de ses fils spirituels qui est tombé dans le péché mortel et qui est donc porté dans le tombeau de la misère éternelle. Il doit suivre le cercueil avec force, pleurs et lamentations, car il recevra les consolations du Seigneur, lequel d'abord touchera le cercueil pour obliger les porteurs à s'arrêter, obligeant ainsi les passions mauvaises à cesser. Puis il ramènera le mort à la vie et le remettra sur la voie des bonnes œuvres pour qu'il puisse confesser ses péchés et proclamer l'amour de Dieu pour lui. Et on voit, oui, un petit peu dans chacune des résurrections de notre Seigneur, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, on voit dans l'Évangile, a ressuscité trois personnes. En fait, il y a trois personnes, trois cas de résurrection dans l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas ressuscité plus. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées dans l'Évangile, nous dit Saint Jean. Et si toutes ces choses étaient expliquées, dit-il, le monde entier ne suffirait pas à contenir tous les livres nécessaires pour expliquer tout ce qu'a fait notre Seigneur. Mais il y a eu au moins trois résurrections. La fille du chef de la synagogue, Jaïr, le fils de la veuve de Naïm, cas d'aujourd'hui, et Lazare dans le tombeau. Donc les pères de l'Église expliquent au sens moral que le fils du chef de la synagogue, c'est celui qui pêche par pensée, par intention. Et les pères de l'Église assimilent ce péché au péché véniel. Deuxième cas, le fils de la veuve de Naïm, celui qui pêche ouvertement et qui influence les autres, c'est le péché mortel. Troisièmement, Lazare dans le tombeau, ça c'est le cas du pécheur habitudinaire qui est enterré dans le péché, dans le vice, sans espoir de s'en sortir. C'est le vice mortel d'habitude. Pour cela, il ne faut pas moins que la voix du Christ qui parle fortement au cœur du pécheur. Jésus ressuscite d'abord en priant secrètement, puis en commandant, enfin en criant d'une voix forte. Donc on voit très bien qu'il y a des différences importantes entre ces trois résurrections. Donc, je vais essayer d'expliquer à partir des pères de l'Église. On voit très bien qu'il y a trois cas qui sont un peu différents. Dans le cas de la fille du chef de la synagogue, fille de Jaïr, donc, qui représente le péché, la résurrection représente le péché véniel détruit par la confession. Eh bien, cette petite fille qui ressuscite, notre Seigneur va la trouver sur son lit dans sa chambre. Il la ressuscite. Le fils de la veuve de Naïm, c'est un peu plus grave parce que non seulement la personne, le fils est mort, mais il est transporté déjà au tombeau, il est déjà dans le cercueil. Ça représente le péché mortel que notre Seigneur Jésus-Christ peut aussi détruire par la confession. Et enfin, troisième cas, Lazare, non seulement il est mort, non seulement il a été transporté dans le tombeau, mais il est dans le tombeau depuis 4 jours. Il sent déjà mauvais, dit Sainte Marthe à notre Seigneur. Cela représente le péché vice mortel d'habitude. Eh bien, notre Seigneur est aussi capable d'effacer ce vice par le sacrement de la pénitence. Voilà ce que disent les pères. Donc, ce mort qui ressuscite hors des portes de la ville, sous les yeux d'une grande multitude, représente l'homme plongé dans le sommeil de ses fautes mortelles. Et la mort de l'âme, qui ne reste plus cachée dans l'intérieur du cœur, mais qui se produit au dehors, et qui par ses paroles et par ses œuvres s'expose au regard de tous, comme aux portes d'une ville, car chacun des sens de notre corps peut être considéré comme la porte d'une ville. Cette ville, c'est notre âme. Ce jeune homme était fils unique parce que l'Église catholique, bien que composée d'un grand nombre de personnes, ne fait semblant cependant qu'une seule mère, et toute âme qui se souvient d'avoir été rachetée par la mort du Seigneur sait que l'Église est veuve. Ce mort était porté dans un cercueil par les 4 éléments terrestres, mais il avait l'espérance de ressusciter parce qu'il était porté dans le bois. Ce bois, le bois du cercueil, jusque-là ne nous était d'aucune utilité, mais dès que Jésus-Christ l'eut touché, il devint un instrument de vie et le signe du salut que le bois de la croix devait apporter à tous les peuples. Donc ce bois du cercueil, touché par notre Seigneur Jésus-Christ, représente le bois de la croix qui va être vivifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, nous, étendus sans mouvement, sans vie dans le cercueil, parce que nous sommes morts, tués par le péché mortel. Lorsque le feu d'une passion violente nous consume, par exemple, ou lorsque les eaux de l'indifférence nous submergent, que la vigueur de notre âme se trouve comme émoussée et appesantie par le poids de ce corps terrestre. Quant à la veuve qui pleure, elle représente l'âme. Le fils défunt, l'intelligence inactive et morte. Le cercueil, la conscience, représente la conscience dans un état de fausse sécurité ou le corps que plusieurs ont appelé un sépulcre. Les porteurs, les tentations du mal, sont les flatteries des compagnons qui s'arrêtent à cause de l'intervention du Christ. La veuve représente aussi, d'après certains pères, l'âme qui a perdu son mari, c'est-à-dire le verbe de vie, la parole divine. C'est l'âme qui a perdu l'état de grâce. Le cercueil est aussi la conscience, toujours alarmée du pécheur désespéré. Ceux qui le portent au tombeau sont les désirs impurs ou les flatteries des amis qui s'arrêtent aussitôt que le Seigneur touche le cercueil, précisent d'autres pères. Souvent, en effet, la conscience que touche la crainte des jugements de Dieu rejette les voluptés charnelles et les louanges injustes, rentre en elle-même et répond au Sauveur qui la rappelle à la vie. Si donc vous êtes coupable d'une grande faute, disent les pères, que vous ne puissiez laver dans les larmes de la pénitence, recourez aux larmes de l'Église, votre mère. Donc les pères précisent, ce que j'ai un peu déjà résumé, les pères de l'Église voient dans les trois morts ressuscités par Jésus-Christ le symbole des trois sortes de pécheurs qu'il ramène à la vie. J'ai un petit peu expliqué, voilà le texte des pères. Dans la fille de Jaïr, l'enfant qui est ressuscité, que notre Seigneur va ressusciter dans l'intérieur de la maison, il voit l'image de l'âme dont la faute est demeurée secrète. En Lazare, mort depuis 4 jours, l'image du pécheur invétéré. Et en le fils de la veuve de Naïm, il voit le pécheur qui vient de succomber, mais dont la faute est publique. Il est là, exposé aux yeux de tous. Nous sommes donc portés en terre quand nous nous laissons emporter par nos passions, par nos ardentes convoitises, par l'ambition plus froide et non moins violente, par la paresse que nous laissons, où nous laissons la passion prendre la place de la raison. Ce sont les porteurs des funérailles de notre âme. Le corps, au lieu d'être un instrument, n'est plus pour l'âme qu'un tombeau. Les porteurs, dit aussi, ça c'est un Saint Bède le Vénérable qui disait ça, les porteurs sont les faux amis qui nous entraînent au péché. Je vais expliquer un petit peu. Sous les dehors de dévouement, ils conduisent en fait à la mort. Mais si vous n'avez plus conscience de votre état, ô pauvres pécheurs, dit-il, au moins n'écartez pas de vous l'Église, votre mère, qui prie pour vous. Toutes les fois qu'un de ses enfants tombe dans le péché mortel, c'est un mort que l'on emporte loin d'elle. Ce cercueil dans lequel ce jeune homme était porté est un symbole. Ce bois desséché, dit un autre père, saint Ambroise, était le symbole de notre vie. Aussitôt qu'elle est touchée par Jésus-Christ, elle reprend de la vigueur. Il y avait donc là une annonce que ce serait par le bois de sa croix que notre Seigneur Jésus-Christ donnerait le salut au peuple. Pour cela qu'au jour de la fête de Sainte Monique, on lit l'évangile de la veuve de Naïm, le même évangile qu'on a également au 15e dimanche après la Pentecôte. Vous voyez, on voit très bien comment les pères de l'Église allaient beaucoup plus au fond des choses que nous. Dans le monde moderne, cette interprétation traditionnelle des pères que je vous ai lue là, que je vous ai expliqué rapidement, qu'on trouve à la fois surtout dans, par exemple, dans la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, également dans Cornelius à Lapidée, qui a pris justement chaque verset de l'Écriture sainte de l'Ancien et du Nouveau Testament, la Sainte Bible, et a donné toutes les interprétations données par les pères. Donc c'est en étudiant un petit peu ces choses-là que nous pouvons découvrir le sens caché de l'Écriture sainte. Je conseille beaucoup à tous ceux qui sont intéressés par cette interprétation officielle, qui est l'interprétation de l'Église, justement d'aller voir par exemple dans toutes les œuvres aussi de Don Mauléon. Les œuvres de Don Mauléon, la plupart ont été rééditées par l'édition Sérémy d'ailleurs. Donc ces œuvres de Don Mauléon vous donnent encore une fois le sens de l'Écriture sainte. Allons, passons, pensons comme l'Église a toujours pensé. Donc un des signes de l'esprit d'Église, c'est justement sur les pères de l'Église. Un des signes du modernisme, je pense un des signes les plus clairs du modernisme, c'est justement ce refus d'aller chercher dans les pères de l'Église l'interprétation de l'Écriture sainte. Beaucoup, malheureusement, de gens modernes sont comme ça. Malheureusement, beaucoup de prêtres, ils vont chercher dans les livres modernes l'interprétation moderne de l'Écriture sainte. Ils ne veulent plus l'interprétation des pères de l'Église parce qu'ils disent que c'est trop vieux, que c'est trop rébarbatif. Mais en fait, c'est l'interprétation de l'Église. Pensons tel que l'Église a toujours pensé. À ce moment-là, nous serons protégés. Malheur celui qui cherche, dans l'interprétation personnelle des choses, à avoir ses propres idées concernant les choses sacrées, ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais le libre arbitre n'est pas quelque chose de catholique du tout dans ce sens-là. C'est typiquement protestant. Ce sont les protestants qui interprètent à leur façon. Ils vont lire, par exemple, le texte de saint Luc, de la résurrection de la fille, du fils de la veuve de Naïm, et chacun va l'interpréter à sa façon. Vous avez 200 personnes qui lisent ce texte, vous aurez 200 interprétations différentes. Non, loin de nous, ce libre examen, qu'on appelle le libre examen protestant, qui n'est pas du tout catholique, qui est même inacceptable pour un catholique. Il nous faut lire ce texte et interpréter le texte comme l'Église l'a toujours interprété pendant des siècles et des siècles. Malheureusement, pratiquement tous les livres modernes, presque tous, l'Écriture sainte sont imprégnées de cet esprit moderniste. C'est pour cela que Saint Pie X, encore une fois, dans sa lutte contre le modernisme, dans son encyclique de septembre 1907, Pascendi Dominici Gregi, sa grande encyclique contre le modernisme, dans les signes par lesquels on peut reconnaître un moderniste, il parle justement de ceux qui ont cette curiosité des choses nouvelles, d'amour des choses nouvelles, cette attraction par les choses nouvelles. L'ignorance, l'orgueil, dit-il, est deux signes. Et le troisième signe, c'est l'attraction des nouveautés. Parce que c'est nouveau, on veut suivre ça. Et beaucoup de gens, beaucoup de catholiques sont comme ça, ils ne se rendent pas compte, ils veulent une interprétation nouvelle de l'Écriture sainte. Il n'y a pas besoin d'avoir une interprétation nouvelle de l'Écriture sainte. Il faut tout simplement se préoccuper de savoir comment notre Seigneur Jésus-Christ a interprété ces choses-là pendant par son Église pendant des siècles et des siècles. Et si on fait attention à ces choses-là, si on se soumet à l'interprétation de l'Église, à ce moment-là, on peut conserver la foi. Donc relisez tranquillement chez vous ce texte de l'Évangile du 15e dimanche après la Pentecôte, avec ce que je viens de vous dire, justement, pour essayer d'en approfondir les choses et essayer d'obtenir, d'aller chercher la moelle même de l'Évangile, qui est la moelle donnée par les pères. Alors, pour avoir justement cet esprit d'Église, il faut passer par celle qui nous donne cet esprit d'Église, c'est la Sainte Vierge Marie. On ne peut pas avoir cet esprit d'Église sans passer par elle, parce qu'elle est le contact, si vous voulez, l'aqueduc qui nous amène l'eau de la grâce. Toutes les grâces passent par elle. Et le cordon ombilical, en quelque sorte, qui nous relie à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut avoir justement la force d'aller chercher justement dans cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, cette connexion avec l'Église. C'est la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie qui va nous donner l'interprétation de l'Église, l'amour de l'interprétation de l'Église. Ce n'est pas pour rien que les modernistes, non seulement se coupent de l'interprétation des pères dans l'interprétation officielle de l'Église, des évangiles, des textes de l'Écriture sainte, mais ils se coupent aussi, ils veulent absolument se couper de la Très Sainte Vierge Marie. Un des signes certains de salut, c'est Saint Louis-Marie Grandmontfort qui disait cela, un des signes de salut, c'est la dévotion à la Sainte Vierge. Et un des signes de damnation, c'est l'absence de dévotion à la Sainte Vierge. On peut dire, un des signes de salut, c'est l'amour de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte donnée par les pères. Et un des signes de damnation, c'est le mépris que l'on a malheureusement dans bien des cas pour l'interprétation officielle de l'Église donnée par les pères de l'Église. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie justement qu'elle nous donne cet esprit d'Église pour que nous puissions justement par cet esprit d'Église nous maintenir dans l'arche, l'unique arche de salut, la Sainte Église catholique, une sainte et apostolique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.